un mois, la Grande-Bretagne donnait son accord pour la construction de deux réacteurs EPR sur son territoire. Un gage de confiance pour un chantier qui, pour l'instant, en France et en Finlande, n'a rencontré que des problèmes technologiques et industriels et dont les délais et les coûts ont été démultipliés. Alors après avoir été pendant des années le fleuron de l'industrie scientifique française, le nucléaire est-il en passe de devenir une malédiction ? Le nucléaire est-il encore une énergie d'avenir ? C'est le problème radioactif que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour en débattre, car en matière d'énergie nucléaire, les avis sont souvent tranchés et les débats souvent vifs, nous avons le plaisir d'accueillir ici en studio, à la Maison de la Radio, à Paris, Dominique Leglu. Bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, docteur en physique nucléaire. Nous sommes également avec Benjamin Dessus. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur et économiste fondateur de l'association Global Chance et nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu Isère avec Daniel Heer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes également, comme chaque jour, en direct sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur le compte @laméthodefc. Alors, il ne sera pas question durant cette heure de faire un débat pour ou contre le nucléaire, entendons-nous bien, mais de réfléchir donc à l'évolution de cette filière, évolution technologique, scientifique et économique, pour tenter de répondre à la question que je posais à l'instant, le nucléaire est-il encore une énergie d'avenir ? Mais pour pouvoir éclairer l'avenir, encore faut-il se tourner vers le passé, passer par le présent, et on va donc remonter un peu le fil de l'histoire de l'atome dans notre pays. Comment s'est construite cette excellence française, puisque ça a été un des fleurons, je le disais en introduction, de l'industrie française. Comment elle s'est construite, Dominique Leglu, cette excellence nationale sur le nucléaire ?
Au début, il y a eu des besoins militaires. Il y avait besoin de faire de l'uranium et après du plutonium de qualité militaire pour faire la bombe atomique. C'était donc un enjeu de souveraineté, ça ne vous aura pas échappé. Et pour cela, eh bien, il a fallu être capable de produire ces éléments. Et au départ, il y a donc, c'était les années, surtout les années 50.
C'était les 30 glorieuses.
Vous avez eu une filière qui s'appelait graphite gaz, qui maintenant n'est plus en fonctionnement en France, qui a été ensuite abandonnée. Bon, elle a duré quand même, Benjamin Dessus connaît peut-être plus les dates que moi, je ne sais plus quand le dernier a fermé, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est que sous Pompidou a été adopté un brevet, le brevet de l'entreprise américaine Westinghouse, qui a conduit à cette érection de PWR, Pressurized Water Reactor, plus connu en français sous le nom de réacteur à eau pressurisée. Et c'est cela que l'on trouve actuellement dans les 19 centrales nucléaires françaises.
Benjamin Dessus, en fait, donc ce que Dominique Leglu nous dit, c'est que notre excellence en matière de nucléaire, puisqu'il faut préciser que la France, alors les États-Unis sont devant nous, mais si on rapporte au nombre de citoyens, la France est le premier pays en termes d'énergie nucléaire par tête.
Ben, on a bénéficié, si j'ose dire, d'un État très centralisé, d'un système extraordinairement stable qui tient au fait qu'on a eu une entreprise nationale EDF dont personne n'imaginait un jour qu'elle ferait faillite. Enfin, il y avait une stabilité et politique et industrielle dans notre pays entre les années de la fin de la guerre et les années 2000, tout à fait spécifique à la France. C'est ça qui a permis ce développement, probablement fou, mais c'est une autre affaire, ce développement massif et qui a relativement bien marché dans son contexte du nucléaire en France. Mais je crois que c'est vraiment des conditions très particulières, très françaises, qui tiennent à une espèce de prolongation du gaullisme dans ce domaine, quoi, si vous voulez.
L'État stratège, l'État planificateur.
Oui, il faut rappeler que toutes les décisions de construction sont passées sans que le Parlement ait quoi que ce soit à dire. Mmh.
Néanmoins, alors vous le disiez, Dominique Le Glu, cette technologie, elle a été empruntée, apportée en tout cas, mais il y a bien eu une excellence française en matière de nucléaire dans les années 70-80, au moment de la construction de la majeure partie des réacteurs.
Mais ce qui s'est fait, c'est qu'une fois que les décisions politiques de construction ont été faites, la chose était lancée et... Effectivement, ce qui paraît peut-être aux gens les plus jeunes aujourd'hui, ce qui paraît peut-être difficile à penser, c'est que par exemple, on a construit le maximum de réacteurs la même année, en 1981, année de l'élection de François Mitterrand. Et c'était le train était lancé et de facto, quand des choses comme ça arrivent, quand une filière comme ça se construit, au moment de ces constructions massives répétées, il y a tout le savoir-faire qui se passe d'un lieu à un autre, d'une centrale à une autre, d'un réacteur à un autre. Il peut se passer aussi, dans le même temps, les défauts.
Alors, on en parlera, on va faire un état des lieux un peu du parc nucléaire français. Je me retourne vers Daniel Heuer, puisqu'on va rentrer un peu à l'intérieur des réacteurs. Il y a différentes générations, on va en parler, des réacteurs de première génération qui ne tournent plus actuellement. Le parc nucléaire français est construit aujourd'hui sur des réacteurs de deuxième génération. Qu'est-ce que c'est qu'un réacteur de deuxième génération, Daniel Heuer? Comment ça fonctionne à l'intérieur en quelques mots?
En quelques mots, c'est un réacteur dans lequel vous produisez des fissions, donc vous cassez des noyaux d'uranium de manière à produire de l'énergie. Cette énergie est collectée par de l'eau. Cette eau est chauffée et va faire tourner une machine à vapeur. En gros, c'est ça. En fait, toute la difficulté d'un réacteur nucléaire, c'est de respecter trois critères de sûreté, en fait, qui sont de confiner la réaction et qu'à aucun moment des produits de fission ne puissent sortir, enfin des produits radioactifs ne puissent sortir du réacteur, donc ça c'est le confinement. Il faut contrôler la réaction en chaîne, vous savez qu'il y a une réaction en chaîne, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites une fission, des neutrons sont émis et un de ces neutrons, et seulement un, va provoquer une autre fission, enfin c'est en moyenne bien sûr, il faut contrôler cette réaction et qu'à tout moment, on puisse assurer qu'elle ne puisse jamais s'emballer. Ce qui s'est produit, en fait, à Tchernobyl, la réaction s'est emballée. La troisième condition, c'est que lorsqu'on arrête le réacteur, et c'est ça qui est très spécifique dans un réacteur nucléaire, c'est que quand on l'arrête, il ne s'arrête pas vraiment. Les réactions en chaîne s'arrêtent, mais il y a de la radioactivité. Vous avez produit des éléments radioactifs et ces éléments radioactifs continuent à décroître et donc à produire de la chaleur. Et il faut, en toutes circonstances, évacuer cette chaleur. Et c'est cette difficulté que Fukushima, on n'a pas su gérer. Cette chaleur, on a eu du mal à terme. Ils ont quand même réussi à le gérer, puisqu'ils ont fini par quand même contenir le cœur à l'intérieur des réacteurs. Mais ça s'est mal passé au milieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait trop de chaleur évacuée. Ils ont été obligés de dépressuriser les réacteurs.
Et alors ça, c'est les cas où les choses se passent mal. On le disait à l'instant, hein, le parc nucléaire français date en majeure partie du début des années 80. Nous sommes en 2016, on en est où aujourd'hui de ce parc nucléaire? On entend beaucoup dire, on parle alors en France, le débat s'est cristallisé autour d'une centrale, de la plus ancienne, de celle de Fessenheim. Mais sur ces 19 centrales et ces 58 réacteurs, quel est l'état de santé de ce parc nucléaire français, Dominique Le Glu?
C'est bien toute la question. Et justement, ces derniers temps, très récemment, il y a eu la mise en exergue par l'autorité de sûreté nucléaire de ce qu'elle appelle des irrégularités. Et en particulier, bon, alors je ne sais plus, c'est 81 ou 87, il faudrait que je me remémore la chose, mais il y en a un certain nombre, plus de 20, qui sont... sur des réacteurs qui sont en fonctionnement et dont l'autorité de sûreté dit que ça ne respecte pas tout ce que ça devrait respecter et que ça peut être embêtant pour la sûreté. L'exemple le plus important étant celui d'une des pièces dans le réacteur 2 de Fessenheim dont vous parliez, en l'occurrence sur une pièce qui est gigantesque, qui s'appelle le générateur de vapeur. Après ce qu'expliquait Daniel Heuer, on sait de quoi il s'agit. C'est le, quand vous faites passer la chaleur de ce qui s'appelle le circuit primaire, hein, là où il y a la radioactivité, au circuit secondaire qui lui va faire tourner les turbines grâce à de la vapeur.
Et la vapeur qu'on voit s'échapper des grandes cheminées blanches. Ah, c'est pas la même. Ah,
bon, autant pour moi. Vous comprenez qu'il faut faire un contact entre ces deux circuits et ça se passe par le générateur de vapeur qui est celui qui est tombé à Paluel au printemps. Ça fait 465 tonnes, hein, c'est ça.
Ce qui est
22 mètres de hauteur. Donc une virole qui n'est pas parfaitement aux normes de ce qu'elle devrait être, l'autorité de sûreté le fait remarquer aussi bien à EDF que pour les futures constructions à Areva.
Benjamin Dessus.
C'est assez impressionnant l'histoire de Paluel parce que ce type d'accident, le générateur qui se casse la figure, c'est-à-dire 800 tonnes qui vous tombent dessus, était exclu des scénarios catastrophiques. C'est un scénario d'explosion, ça n'existe pas. Je ne veux pas voir la mer, je me retourne et je mets la tête dans le sable. Donc on s'aperçoit maintenant, au bout de 30 ans, que les ingénieurs de l'époque, qui savaient ce qu'ils savaient, etc., ont conçu un système, et l'autorité de sûreté derrière, etc., dans lequel il y a des trous importants, des trous méthodologiques importants. Et puis d'autre part, on s'aperçoit qu'un certain nombre de matériels qui devraient avoir telle ou telle caractéristique de soudure, de qualité d'acier, etc., sont beaucoup moins bien qu'on l'imaginait. Reste en plus que c'est un parc qui vieillit et que quand on a 70 ans, le cœur est moins bon que quand on a 20 ans, évidemment.
Ces centrales, elles étaient prévues pour tenir 40 ans. Quand on dit qu'une centrale vieillit, Daniel Heuer, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vieillit? On parle pas des malfaçons, on parle vraiment du vieillissement du fonctionnement de la centrale. Quelles sont les pièces qui subissent les assauts du temps et qui rendent la centrale moins sûre?
Alors, évidemment, tout système industriel vieillit. Donc, vieillir, ça veut rien dire en réalité. C'est-à-dire que les pièces perdent petit à petit leur capacité. On a besoin qu'elles respectent un certain nombre de contraintes et à un moment donné, elles ne pourront plus le faire. Donc, il faut les remplacer. Dans un réacteur nucléaire, toutes les pièces peuvent être à un moment donné remplacées. On vient de parler à Paluel de cette histoire de générateur de vapeur. C'était à l'occasion du remplacement d'un générateur de vapeur. C'est le générateur, l'ancien, qui devait être déplacé et qui est tombé. Alors, je vais juste faire une remarque sur ce que disait Benjamin Dessus. En fait, dans les analyses de sûreté, je travaille pas mal sur ce genre de sujet, sur d'autres choses, mais c'est les mêmes façons d'aborder les choses. On ne prévoit pas explicitement les incidents ou les accidents, parce qu'on est sûr d'en rater. Ce que l'on dit, par exemple, pour ce cas particulier, on se demande ce qui se passerait si jamais un objet extrêmement lourd tombait. On ne demande pas quel objet, on ne se demande pas dans quelles circonstances. Donc, ce qui veut dire que dans l'analyse, cet accident était quand même prévu. Pas l'accident lui-même, mais le fait qu'un objet extrêmement lourd tombe. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences, etc.
Pour ce cas de la chute du générateur. Ensuite, voilà. Sur le vieillissement, de la centrale et d'un réacteur nucléaire à proprement parler.
Voilà. Si vous allez dans les réacteurs les plus anciens, Fessenheim par exemple, constaterait que quasiment tout est neuf à l'intérieur. Tout a été remplacé, tous les câbles, tous les tuyaux, tous les systèmes, les pompes, les générateurs de vapeur, etc. Il y a deux choses qui ne peuvent pas être remplacées. C'est le bâtiment réacteur et la cuve réacteur. C'est un choix qui a été fait au départ. Il n'y a pas une porte assez grande pour faire sortir le cuve réacteur. Donc, on ne sort pas la cuve réacteur, on ne peut pas la remplacer.
C'est un choix industriel.
Alors, ces cuves, c'est un choix industriel au départ. Donc, ces cuves ont été conçues au départ pour une durée de vie de 60 ans. Alors, juste une précision, on confond souvent la durée de vie du réacteur qui est sa durée de vie économique, c'est-à-dire quel est le temps d'amortissement, qui était de 30 ans au départ et qui était repoussé à 40 ans, mais c'est un amortissement économique, et la durée de vie des éléments à l'intérieur. Certains ont une durée de vie beaucoup plus courte, on voit bien qu'on a déjà remplacé tous les générateurs de vapeur, et d'autres ont des durées de vie plus longues, et donc celle qui a la durée de vie la plus longue, parce qu'on ne peut pas la remplacer, c'est la cuve qui a une durée de vie a priori de 60 ans. Alors comment on fait pour vérifier que la cuve a bien la bonne résistance, parce qu'elle supporte quand même une pression énorme, à une température qui n'est pas très élevée, mais quand même. Et il y a un léger flux de neutrons qui la traverse, donc ça détruit un petit peu, ça l'abîme, on peut le dire comme ça. Donc, en fait, on a placé à l'intérieur, un peu plus en interne de la cuve, des matériaux strictement identiques à la cuve. Et donc, à chaque fois qu'on ouvre la cuve pour faire des remplacements de combustible, on extrait ces échantillons, quelques échantillons de ce type-là, les autres restant dedans. Et comme ça, on peut voir, faire des analyses en laboratoire et voir comment évoluent les caractéristiques physiques de la cuve.
Et le niveau d'usure.
Voilà, le niveau d'usure, si on peut le dire comme ça. Et donc, on constate que effectivement, les calculs étaient bons à l'époque, ils étaient très forts. Et effectivement, on pense que les caractéristiques seront tout à fait bonnes pendant 60 ans. Donc, on peut penser que les réacteurs qu'on a actuellement peuvent vivre 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire fonctionner 60 ans. Il faut vérifier, et ça, c'est une spécificité française, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on remet tout à plat pour vérifier si les contraintes sont bien satisfaites. Et pas les contraintes au moment de la construction, mais les contraintes actuelles, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est les contraintes au niveau de la construction qui doivent être satisfaites. Et donc, on vérifie, et puis l'autorité de sûreté peut très bien, à un moment donné, dire « tel réacteur, après tout, ça ne se passe pas si bien que ça, on préfère qu'il s'arrête ». Donc, tant que l'autorité de sûreté...
Ce qui s'est déjà produit, Daniel Heuer, ça s'est déjà produit que l'autorité de sûreté nucléaire dise « on arrête telle centrale ?» Ou tel réacteur ?
Pas définitivement. Par contre, elle demande à EDF ou à Areva, si c'est une installation Areva, de faire un certain nombre de modifications, un certain nombre de choses. Et s'ils ne s'exécutent pas, alors il y a une menace réelle de demande d'arrêt. De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Si l'autorité de sûreté estime que la sécurité n'est pas satisfaite, elle demandera l'arrêt et l'arrêt sera effectif.
Alors, la réalité, si on s'en tient aux chiffres que vous venez de nous donner de durabilité, c'est 60 ans. Donc, finalement, ça veut dire qu'on est à une quinzaine d'années de la fin de vie de ces réacteurs. On sait qu'en matière de nucléaire, en matière de politique nucléaire, d'industrie nucléaire, tous les temps sont extrêmement longs. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Leglue, quand on voit par exemple qu'un rapport d'expertise qui est sorti dans la presse il y a très peu de temps, qui estime que 55% des réacteurs sont défectueux, ou quand la Cour des comptes réestime le coût du maintien à niveau du parc nucléaire français de 100 milliards d'euros, est-ce qu'on a une porte de sortie pour cette génération de réacteurs qui est la deuxième génération ?
Avant de répondre à votre question, il y a quand même quelque chose qui... Je pense qu'on ne peut pas ne pas dire, surtout le lendemain du jour où l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a sorti son rapport sur ce que pensent les Français des questions de sûreté et de sécurité. En l'occurrence, 2 Français sur 3 pensent aujourd'hui ou redoutent qu'il y ait un accident de type Fukushima en France. Pourquoi je vous tenais à dire ça maintenant ? C'est parce que, puisque le titre de votre émission, c'est l'avenir, je pense que, et contrairement à ce qui s'est passé par le passé, il y a un nouvel acteur réel dans ce grand jeu, qui sont les opinions publiques. Alors, pour l'instant, l'opinion publique française a toujours, d'une certaine façon, été extrêmement raisonnable. Vraiment très raisonnable.
Vous disiez tout à l'heure, au moment de la construction de ces réacteurs, on ne lui a surtout pas demandé son avis.
Oui, mais nous sommes beaucoup de décennies après. Et quand vous regardez ce rapport de l'IRSN, vous voyez que, tendanciellement, 8 personnes sur 10 n'ont toujours pas envie d'habiter à côté d'une centrale nucléaire. Mais, je vous dis, les gens sont quand même très raisonnables.
si je me fais l'avocat du diable, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut habiter à côté d'une éolienne non plus. Hein. Pas pour
ah,
les mêmes
50%.
Raisons.
Mais regardez le rapport. Si, le parc d'éoliennes, 51% ils acceptent.
D'accord.
Comme on disait jadis, j'ai les documents.
Je crois que Dominique a tout à fait raison. L'opinion publique commence à prendre conscience sérieusement et indépendamment de ce que dit le gouvernement, EDF, etc., se fait une opinion. Il y a le problème des déchets aussi qui réapparaît avec Bure, etc. Bon, manifestement, c'est devenu maintenant dans l'agenda des gens. Donc c'est important. Donc, vous posiez la question, qu'est-ce qu'on fait après ?
Je posais la question exactement, est-ce qu'il a été prévu une voie de sortie ou un après au moment de la construction ? Ce qui n'est pas tout à fait la même question.
Devant Tchernobyl, ce qui était quand même premier, Three Mile Island d'abord, puis Tchernobyl, la France, l'Allemagne, etc., ont essayé de faire, non pas de changer de filière, de rester dans la même filière, c'est toujours la génération 2, toujours des réacteurs à eau bouillante, ou pressurisés selon le cas, qui ont les mêmes types de défauts, mais de les faire plus sûrs. C'est-à-dire, on change pas de technologie, on essaye de faire quelque chose de plus sûr. C'est-à-dire, on rajoute des sécurités, on rajoute des doubles circuits. Si jamais le cœur fond, on met quelque chose pour le ramasser en dessous. Vous voyez, enfin,
ce qui était le cas à chaque accident nucléaire. Les normes de sécurité n'ont fait qu'augmenter, ce qui d'ailleurs explique les surcoûts de l'entretien de la filière.
Pour l'instant, on change pas de filière et on la raffine, si vous voulez. Bon. À un point tel, d'ailleurs, que le dernier qui n'est toujours pas construit, le PR de Flamanville.
On va en parler dans quelques instants.
C'est celui-là, la troisième génération proposée, est tellement compliqué qu'on a du mal à le construire.
On va en parler dans un instant.
Donc la proposition finalement, c'était, on a derrière ça un réacteur beaucoup plus sûr, qui est exactement comme les copains, mais raffiné.
Dominique Leglu.
Oui, simplement pour abonder dans ce sens. La question de la sûreté, elle est effectivement dans l'agenda des gens maintenant. Et ce n'est pas une histoire de pro ou d'anti-nucléaire. C'est quand même plus subtil que ça.
Alors, je me retourne juste un dernier mot rapidement vers Daniel Leher avant de parler donc, de cette troisième génération, puisque c'est le thème de l'émission du jour, hein, l'avenir du nucléaire. Tout de même, quand on voit les surcoûts que j'évoquais, qui sont peut-être liés effectivement aux accidents qui ont augmenté les normes de sécurité, quand on voit la quantité, Daniel Leher, et tous les problèmes qui sont liés au stockage, parce que, encore une fois, c'est pas le thème de l'émission du jour, mais il faut en parler, on estime à 1 320 000 mètres cubes de déchets radioactifs, ce qui a été produit par l'industrie nucléaire française. Est-ce que à l'origine de ces réacteurs et de cette filière nucléaire des années 80, de ces réacteurs de deuxième génération, on a pensé dès le départ la sortie, l'évolution, la reconversion en tout cas possible de ce matériel industriel?
Bon, personnellement, j'en sais rien. J'étais encore gamin à l'époque. Je pense que non. Il faut bien se resituer dans l'époque. À l'époque, c'était la guerre du Kippour et donc le choc pétrolier. Il fallait trouver une solution. On était devenu tout pétrole et d'un seul coup, le pétrole pouvait atteindre des prix insupportables. Donc, il fallait absolument trouver des solutions. Donc, chacun essayait de trouver ses solutions. L'Allemagne s'est tournée vers le charbon. La France avait pas suffisamment de charbon, avait pas de pétrole, avait pas de gaz, donc ils ont fait du nucléaire. Je pense que la raison du nucléaire en France, c'est essentiellement ça, c'est que la solution qui a été trouvée, c'est celle-ci. Bon, il se trouve qu'on avait aussi les compétences pour le faire, donc ça allait bien. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu à l'époque qu'est-ce qui se passerait à la fin ? Je crois pas, ils étaient un peu dans l'urgence. Maintenant, si on se place sur aujourd'hui, oui, bien sûr, les gens travaillent sur comment, par exemple, démanteler ces réacteurs. Il y a un institut qui travaille exclusivement sur le sujet, qui a déjà démantelé plusieurs réacteurs, des réacteurs graphène-gaz, qui sont des réacteurs extrêmement compliqués à démanteler, beaucoup plus compliqués qu'un réacteur à eau pressurisée. Ils ont démantelé aussi des petits réacteurs qui ressemblent beaucoup à des réacteurs eau pressurisés, donc avec la même problématique. Et donc, il y a maintenant un retour d'expérience qui est assez important. En plus, les Américains ont déjà démantelé, je crois, 9 réacteurs eau pressurisés. Donc maintenant, on a une expérience assez importante sur le démantèlement de ces réacteurs. Et on sait que c'est quelque chose qui pourra se faire sans grande difficulté. Alors après, vous parliez des déchets. Le démantèlement va produire des volumes de déchets importants. Vous parlez d'1 300 000 mètres cubes.
Ce sont des chiffres de 2010.
Si vous ramenez ça, Oui, bon, ça va évidemment augmenter, mais si vous ramenez ça par habitant, vous voyez que c'est très faible, c'est quelques dizaines de litres, par rapport, par exemple, aux tonnes de CO2 que chaque habitant rejette dans l'atmosphère chaque année. Donc, ce sont des quantités qui sont faibles, que je voulais donner en masse ou en volume, c'est très faible. Par contre, ce sont des déchets qui sont extrêmement dangereux, donc qui demandent une gestion très, très précautionneuse et très rigoureuse, ce qui est actuellement le cas, et il faut que ça continue comme ça. Il y a effectivement une nécessité d'être rigoureux sur la gestion de ces déchets.
Des déchets qui sont enfouis pour le moment.
C'est pas énorme en quantité. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout enfouis. Pour l'instant, ils sont stockés, entreposés, voilà, un peu partout. Déjà, il faut savoir que près de 50% des déchets radioactifs viennent du médical ou du militaire. Je crois que c'est 55% qui viennent de l'industrie nucléaire. Mais l'essentiel de la radioactivité, évidemment, vient de l'industrie nucléaire. Mais là, les volumes sont extrêmement faibles. C'est 1800 mètres cubes, je crois, actuellement.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire un mot sur quand même sur ces déchets radioactifs, Daniel Heuer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout la technologie pour rendre moins radioactif, pour traiter ces déchets. Pour le moment, en quelque sorte, on les pose dans un coin en attendant que la technologie augmente pour qu'on sache quoi en faire. C'est ça l'idée ?
Non, c'est pas vraiment ça, parce que tels qu'ils sont actuellement stockés, je vois pas ce qu'on pourra en faire. Ils sont vraiment considérés comme des déchets et seront gérés en tant que tels. Malheureusement, parce que je pense qu'on pourra trouver des solutions pour les rendre moins radioactifs, mais dans l'état où ils sont, je pense que ça sera pas faisable, en fait. On pourra le faire pour des déchets produits dans les années à venir, mais pas si on prend des décisions de faire ce qu'il faut. Mais on ne pourra pas le faire avec ceux qui sont déjà entreposés.
Dominique Leglu, une réaction en un mot ?
Oui, simplement, c'est la question que vous posiez initialement. Vous citiez des chiffres, vous rappeliez les 100 milliards d'euros que recommande la Cour des comptes. Voilà.
Pour entretenir le parc existant.
Pour mettre aux normes, voilà, il va falloir les sortir, ces milliards. Et finalement, on peut se poser des questions techniques, mais actuellement, est-ce que le problème numéro un, c'est pas le problème financier ?
Moi, je voudrais, la question initiale que vous aviez posée, c'était est-ce que culturellement, les gens imaginaient les problèmes de l'aval du cycle ? Moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, je peux vous dire quelque chose. J'ai commencé à travailler dans les années 60, donc j'étais en plein dans ce truc-là. J'étais pas dans le nucléaire, mais j'en entendais parler. En fait, vous étiez dans une situation totalement différente. On était en pleine expansion du nucléaire et les déchets resteraient marginaux. Le démantèlement, il y aurait des milliers d'ingénieurs en train de construire des centrales et on en détacherait quelques-uns pour s'occuper de ce problème. On verrait bien. On n'est plus du tout dans cette situation puisqu'on ne fabrique aucune centrale, finalement, au monde. On en fabrique deux par an. Dans une industrie qui stagne, voire qui descend. Et le problème est par contre... La vieillesse arrive. On est exactement dans l'histoire. On est dans l'histoire de la dépendance, si vous voulez. Il y a un moment où ce problème devient majeur et on n'a pas du tout les outils qu'il faut.
This world is at a tremble with its strength and mighty power. They're sending up to heaven to get the brimstone fire. Take warning, my dear brother, be careful how you plan. You're working with the power of God's own holy hand. Atomic power, atomic power, was given by the mighty hand of God.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
16h30 sur France Culture. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, @laméthodefc. Nous parlons du nucléaire et de l'avenir de la filière nucléaire avec Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, Benjamin Dessus, ingénieur économiste, et Daniel Leher en duplex depuis Grenoble et directeur de recherche CNRS au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie. On a parlé du présent, du passé et du présent. On va commencer donc à regarder un peu vers le futur de cette filière nucléaire, si vous le voulez bien. Les réacteurs qui sont en service actuellement, on l'a dit, sont des réacteurs de deuxième génération. Le réacteur de troisième génération, il s'appelle l'Evolutionary Power Reactor. On le connaît mieux sous le nom d'EPR. Il y en a un en construction à Flamanville, il y en a un également en Finlande, il va y en avoir en Chine et depuis le 15 septembre, plus bientôt en Grande-Bretagne, à Hinkley Point. C'est quoi, Daniel Leher, un EPR? Qu'est-ce que ça fait de mieux? Ou qu'est-ce que ça devrait faire de mieux? Qu'est-ce que ça va faire de mieux, une fois que ce sera terminé, qu'un réacteur de deuxième génération?
Il n'y a pas une énorme différence. Dans le concept, c'est exactement la même chose. Benjamin Dessus l'a dit tout à l'heure. Tout simplement, c'est un système qui est plus sûr, sur lequel on a rajouté beaucoup de systèmes pour assurer qu'il n'y aurait jamais de conséquences sur l'environnement, sans pour autant pouvoir prouver qu'il n'y aura jamais de conséquences sur l'environnement, en l'occurrence. Donc, il y a un progrès au niveau de la sûreté. Évidemment, ça revient plus cher, puisque dès qu'on essaie de faire mieux, ça coûte forcément plus cher. Et je suis d'accord sur le fait de dire qu'on reste sur la même filière et on met des rustines. C'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer, toujours améliorer. Donc, on a rajouté des systèmes qui sont vraiment importants, mais qui existent aussi sur tous les réacteurs actuels en France, puisque la sûreté demande que tous les réacteurs suivent. Alors, par exemple, on a rajouté des recombineurs d'hydrogène dans tous les réacteurs, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir une explosion hydrogène, comme ça s'est produit à Fukushima en cas d'accident grave. Il y a aussi des filtres à sable qui permettent d'éviter, si jamais on est obligé de rejeter des gaz, de la vapeur vers l'extérieur, que de la radioactivité parte avec. Enfin, du moins, il y en aurait beaucoup moins. Donc, tous ces systèmes sont des améliorations. Dans l'EPR, c'est un peu mieux conçu, c'est un peu mieux fait, mais ça reste un réacteur eau pressurisée. Il n'y a pas une différence fondamentale.
Et pour le moment, il y a aussi un problème majeur avec l'EPR, c'est qu'on n'arrive pas à en venir à bout, hein, puisque je vous rappelle que le coût pour celui de Flamanville a triplé. On pensait qu'il serait construit en 4 ans. Il est toujours en chantier. On est passé de 3 milliards à 10 milliards et demi d'euros. On parle de malfaçons dans tous les sens, dont une malfaçon sur la cuve dont on a du mal à estimer encore le coût. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire ce réacteur si c'est le même que les réacteurs de seconde génération ont un peu amélioré, Benjamin Dessus?
En fait, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes à la fois. Comme il était difficile à faire, on l'a fait encore plus gros que les précédents. Donc la cuve est plus grosse. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes comme ça. Et on arrive à des limites sur le forgeage, etc., qui sont compliquées, quoi. On a la limite des capacités industrielles des différents industriels. D'autre part, on a fait un outil très compliqué, très sophistiqué, dont on a du mal à maîtriser l'ingénierie. Surtout que EDF, ayant passé une dizaine d'années à passer d'ingénieurs nucléaires, EDF, c'était des ingénieurs nucléaires qui étaient les patrons. Et puis on a fait des financiers et on a acheté un réseau de distribution en Argentine ou je sais pas quoi. C'était plus la préoccupation des gens. Et on a perdu cette ingénierie, on a perdu cette expérience. Donc on sous-traite à des gens et on a du mal à gérer ce chantier. Je crois que c'est essentiellement ça qui se passe. Une perte de connaissances, une perte d'habitude de faire ce genre de choses, et un outil qui est à la fois plus gros et plus difficile à faire que le précédent.
Dominique Leglu, sur ce réacteur troisième génération, je le dis, hein, les coûts, on en est à 10 milliards et demi d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, c'est devenu plus cher que le grand collisionneur de Hadron du CERN qui a coûté 9 milliards d'euros. Non, mais enfin, ça donne quand même un ordre de grandeur. Deux sénateurs se sont émus début juillet de l'absence de politique nucléaire et énergétique de l'État français et suggèrent de planifier dès aujourd'hui une trentaine de PR sur tout le territoire pour assurer le renouvellement du parc des centrales. Ce serait le retour d'une politique un peu programmatique en termes de filière nucléaire, ou est-ce que c'est complètement délirant?
Ah bah oui, quand c'est dit comme ça, ça s'appelle effectivement... c'est très très programmatique. Alors même...
C'est dramatique mais programmatique.
Alors même que aujourd'hui, Et quand vous regardez une fois encore le baromètre de l'IRSN paru hier, je leur fais de la publicité, ma parole, les Français sont très favorables aux énergies renouvelables, que ce soit des éoliennes, et vous vérifierez le chiffre pour
je
les parcs.
Je vous promets.
Maintenant, c'est moitié-moitié, voilà. Ou le solaire. Et l'avenir, en tout cas, regardez ce qui est en train de se dessiner, notamment en Chine. Ben, c'est beaucoup, beaucoup de solaire.
Non, mais alors pour revenir, le solaire, c'est une autre question.
Mais
pour parler,
comme
encore une fois.
Dit, tout est lié. C'est-à-dire, si dans votre programme, vous vous dites, pour qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'en gros, quand même,
parce
c'est
qu'il
ça.
Va y avoir une rupture dans 15 ans.
C'est
et pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a
pas,
pas de.
Ans, même pas dans 15 ans.
Peut-être moins de 15 même ans. Plus tôt, si on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités.
Si on n'a pas l'autorisation de continuer.
Exactement.
Et les 100 milliards à mettre dedans, on s'arrête plutôt dans 5 ans.
Donc il risque d'y avoir une rupture. Alors, le temps nous presse un peu parce que j'aimerais vraiment qu'on examine aujourd'hui technologiquement et scientifiquement effectivement ce qui va arriver. Alors l'EPR, on entend bien que c'est compliqué, que ça coûte très cher et que programmer des EPR pour remplacer les centrales existantes, ce serait pas vraiment une solution. La quatrième génération, qui est en cours d'étude pour le moment, ça s'appelle ITER.
Ça
s'appelle pas ITER, je me trompe. Alors,
la quatrième génération, c'est toute une série de réacteurs innovants, de nouvelles filières. Il y en a 6 ou 7 qui sont étudiées dans un forum qui a été lancé par les États-Unis, il y a l'Europe dedans, etc. Avec les réacteurs sur générateurs, les réacteurs à sel, etc. Je vous fais pas la liste parce que c'est très long.
On va en parler des réacteurs à sel.
ITER, c'est une autre affaire.
Alors,
là, on reste dans le domaine de la fission nucléaire, mais on le fait autrement.
ITER, c'est là. Fusion.
C'est vers ça que je voulais vous amener.
Bien d'autres problèmes.
Ouais. Alors, par quoi on commence? On commence par les réacteurs à sel fondu ou par ITER? Parlons d'ITER, puisque ITER, les recherches se déroulent en ce moment, notamment à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, dans un centre de recherche du CEA. Daniel Heuer, la fusion, les centrales de deuxième, troisième, quatrième génération, c'est de la fission. Là, on parle de fusion. La fusion, c'est quelque chose qu'on maîtrise encore très mal. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est pas la fusion qu'on maîtrise mal. Faire fusionner des noyaux, ça, les gens le font tous les jours dans des laboratoires. C'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. J'ai fait des expériences dans notre laboratoire où on faisait de la fusion de deutérium-tritium pour avoir des neutrons. Non, ce qui est difficile à faire, c'est de pouvoir produire de l'énergie en continu avec des puissances raisonnables, genre le gigawatt, pendant des temps longs. Et là, on est très très loin d'en arriver là. Alors, pour dire que ITER, c'est une expérience qui n'est pas là pour produire de l'électricité et qui est censée montrer qu'on est capable de faire fonctionner le système pendant une dizaine de minutes. Alors, ils vont peut-être le faire plusieurs fois, évidemment, pendant une dizaine de minutes, mais ça va se contenter de faire ce genre de choses.
Mais pendant une dizaine de minutes, on produit une énergie démesurée, encore plus grande que celle qu'on produit avec la fission.
Non, c'est pas une plus grande. C'est une autre façon de produire en fait, mais c'est le même ordre de grandeur. C'est pas le problème. Le problème c'est que il faut. Ça se passe à très très haute température. C'est quelques dizaines de millions de degrés, centaines de millions de degrés. Donc pas de paroi évidemment. Donc vous mettez ça dans une bouteille magnétique. Vous faites un plasma et il faut que ce plasma veuille bien rester dans la bouteille magnétique. Et ça, c'est très, très, très compliqué à faire. On ne sait pas le calculer parce que c'est extrêmement instable. L'expérience ITER, c'est justement de progresser dans ce confinement du plasma, dans cette bouteille magnétique, mieux apprendre à faire ce confinement. Mais ce n'est qu'un des problèmes de la fusion. Le deuxième problème, c'est qu'on veut faire ça avec... la solution la plus simple qui est la fusion deutérium-tritium. Or, il n'y a pas de tritium.
Donc, ce sont des isotopes de l'hydrogène, il faut le préciser.
Ce sont des isotopes de l'hydrogène. Le noyau.
Ce
n'est pas une molécule. Et donc, ce tritium, il faut le produire dans le réacteur. Or, chaque fois que vous faites une réaction de fusion, vous produisez un neutron. Et avec ce neutron, vous devez produire un tritium. Il n'y a rien qui fonctionne avec 100% de rendement, donc vous êtes sûr de pas y arriver. Donc il faut multiplier les neutrons, donc il faut mettre des systèmes autour compliqués. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire, et je ne pense pas qu'on saura faire avant très longtemps.
Dominique Leglu.
Oui. pour rebondir sur ce que dit Daniel Heuer, quand il a dit on a un plasma dans une bouteille magnétique, il n'y a pas de confinement. Et il faut bien comprendre qu'effectivement ce plasma, c'est là-dedans que vont se produire les réactions. Mais tout autour, et on a vu les images, il y a des parois. Et justement, la production massive de neutrons, on se pose la question, est-ce que ces parois vont être assez résistantes ? Vous savez qu'on nous dit toujours, finalement, la fusion, c'est formidable, ça ne fera pas de déchets, en tout cas peut-être pas à l'aune, pas les mêmes déchets que les réacteurs à fission. Mais le problème de ces parois de cet appareillage, eh bien, pour l'instant, c'est pas résolu. Par ailleurs, alors là, on ne peut pas entrer dans le détail de tous les éléments qu'il faut pour construire cet appareillage, mais il faut s'assurer qu'un certain nombre de terres rares seront pas trop rares et qu'on en disposera toujours pour pouvoir faire cette expérience.
Maintenant, dessus. Moi,
j'ajouterais que l'élément du temps est considérable dans cette affaire. Vous savez qu'on est saisi par l'effet de serre. Notre horizon de survie de l'humanité se situe plutôt vers 2050 pour pas avoir trop d'ennuis que dans 2200. Et si tout va
très bien...
Pour
la version optimiste, dites-moi.
Non, je veux dire, il faut avoir fait des choses. Il faut avoir produit de l'énergie de telle façon que en 2050, on n'ait plus besoin d'utiliser trop de carbone. Et la proposition d'ITER, si tout va bien... Si les chercheurs ont raison, si on trouve les matériaux, si, le premier réacteur apparaîtra dans les années 2070. Autrement dit, l'influence sur notre bilan énergétique ne commencera à compter, si tout allait très bien, y compris l'industrie, l'opinion des gens, etc., que vers 2100. Ben, c'est beaucoup trop tard. Alors, moi, d'où la question, est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'ordre de 20 milliards actuellement? De 20 milliards, c'est quand même
au niveau international, pas pour la France.
D'accord, ouais. 20 milliards, tout court. Hein. Sur ce genre de choses. Quoi.
Donc, Dominique Legault.
Benjamin pose plein de questions en même temps, mais par exemple, l'ancien prix Nobel qui est décédé maintenant, Georges Charpak, avait laissé une sorte de testament, en tout cas dans un de ses écrits, disant qu'il trouvait que ce ITER, ça n'était pas du tout raisonnable à faire. Quand vous parliez, Nicolas, tout à l'heure, du fait, est-ce que ça allait produire beaucoup d'énergie ? C'est vrai que la façon, entre guillemets, dont on nous vend un tel appareillage, c'est le fait que ça soit la même énergie que celle des étoiles. Donc quelque chose qui est formidable.
Oui, puisque c'est les principes de fusion, c'est ce qui se passe au sein du Soleil.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait de l'effet.
Alors, ITER, on l'entend, c'est trop loin, on ne maîtrise pas encore très bien. EPR, c'est la même chose qu'avant, mais ça coûte très cher et on n'y arrive pas. Heureusement, il y a Antoine Beauchamp.
Bonjour, bonjour Nicolas.
Alors Antoine Beauchamp ne va pas vous révéler les secrets de la fusion froide tout de suite, mais néanmoins, vous êtes allé vous faire irradier un peu.
Exactement, j'ai rencontré Sylvain David, qui est physicien nucléaire au CNRS et directeur scientifique adjoint de l'IN2P3, l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules. C'est un institut qui regroupe une vingtaine de laboratoires et près d'un millier de chercheurs qui travaillent entre autres sur la physique appliquée et donc sur l'énergie nucléaire.
Et donc, vous allez me parler d'énergie nucléaire.
Et donc, on n'a pas parlé de football.
On va parler de nucléaire. Vous avez dit que je voulais pas faire cette relance.
on a parlé avec Sylvain David de nucléaire, donc des freins aux innovations de rupture en matière d'énergie nucléaire et de la durabilité de la production de cette énergie. On a également évoqué les travaux de recherche de l'IN2P3 concernant les réacteurs nucléaires d'aujourd'hui et de demain.
D'abord, un réacteur nucléaire, c'est un objet très multidisciplinaire où il y a d'abord de la physique nucléaire et puis jusqu'à de l'ingénierie, de la thermohydraulique, des matériaux, de la thermodynamique. Donc notre travail à l'IN2P3 concerne plutôt la partie, je dirais, première, qui est la physique nucléaire. Et pour modéliser un réacteur, on part de données de base qui, si vous voulez, quantifient les probabilités d'interaction des neutrons avec la matière. Donc c'est ce qu'on appelle les sections efficaces, qui sont connues plus ou moins, qui sont encore mesurées et modélisées à l'heure actuelle pour améliorer les bases de données. Et quand on a des bases de données, après on peut, avec des codes de simulation plus ou moins complexes, simuler le comportement des neutrons Et puis, voilà, rechercher la criticité d'un cœur, regarder l'évolution du combustible, la production de déchets, et toutes sortes de paramètres importants qui, après, rentrent dans une vision plus globale du réacteur et d'un scénario, par exemple.
Dans notre émission, le mercredi, on s'emploie à envisager le futur, ce qui est assez vaste. Je voudrais savoir, pour vous, quel serait le réacteur nucléaire idéal pour demain, pour le futur ?
Alors, c'est impossible de répondre directement à la question, parce que le réacteur idéal, d'abord, il n'existe pas. Et puis, le réacteur optimal, j'ai plutôt envie de dire, le réacteur optimal, il dépend très fortement de la situation, du contexte nucléaire qu'on envisage pour le futur. Par exemple, si le nucléaire stagne, aujourd'hui, c'est assez peu le nucléaire dans le monde, c'est 5% de l'énergie. Il y a des scénarios où le nucléaire n'augmente pas beaucoup. Le réacteur idéal, c'est sans doute un réacteur qui est capable de gérer les stocks de plutonium, de stabiliser les stocks de plutonium à des bas niveaux et à gérer au mieux les déchets. En revanche, si on regarde des scénarios où le nucléaire se déploie assez massivement, ça veut dire par exemple un facteur 10 au niveau mondial d'ici la fin du siècle, là le réacteur optimal, il est différent parce qu'il doit consommer beaucoup moins de ressources, donc il doit mettre en œuvre la régénération, et le plutonium devient le combustible essentiel de ces réacteurs. Donc selon le scénario, le réacteur qu'il faut développer n'est pas du tout le même. Du point de vue des ressources, à ce niveau de production, c'est une énergie durable. On a des ressources pour au moins 100 ans, sans doute plusieurs siècles, à ce niveau-là de production, donc relativement faible. Par exemple, dans des scénarios où on veut réduire très fortement les émissions de CO2 et où le nucléaire joue une part importante, là, on peut parler de centaines, de milliers de réacteurs dans le monde, par exemple, essentiellement en Asie, en Chine, en Inde. Et donc là, la durabilité des ressources se pose. Et c'est pour ça qu'il faudrait changer de technologie et passer à la régénération. La difficulté, c'est que ce sont des réacteurs sur lesquels on a encore peu de retours d'expérience, même sur les réacteurs rapides au sodium, qui est la technologie industrielle la plus aboutie pour atteindre la régénération. Il y a quelques réacteurs qui ont tourné dans le monde pendant 10 ans. Est-ce que la société est capable d'amener cette technologie au niveau industriel à hauteur de centaines de réacteurs en 2100 ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. C'est vraiment un challenge industriel. Et puis de l'autre côté, vous avez des technologies en rupture qui sont là pour le coup très innovantes, sur lesquelles on a encore moins de retours d'expérience, comme les réacteurs à sel fondu, par exemple, qui sur le papier proposent des avantages très intéressants, théoriques, mais alors il faudrait investir énormément pour réussir à démontrer la faisabilité technique à un niveau industriel de ce type de système. Et la prise de risque dans le nucléaire, la prise de risque industrielle est très compliquée. Les temporalités sont très longues, les règles de sûreté sont telles qu'il faut des années et des années pour valider l'utilisation d'un nouveau alliage métallique dans un réacteur qu'on connaît. Alors imaginez la difficulté qu'on pourrait avoir à démarrer un réacteur complètement différent avec un combustible liquide. Donc c'est vraiment un frein à l'innovation un peu, je dirais, de rupture.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp au CNRS. On entend plusieurs choses dans ce reportage qui vous a fait réagir en studio. J'imagine Daniel Heuer aussi. Une réaction peut-être, Daniel, à ce reportage, les réacteurs à sel fondu, le thorium, c'est ça l'avenir aujourd'hui du nucléaire? C'est là-dedans qu'il faut investir?
Je vais pas dire, c'est le sujet sur lequel je travaille, donc je vais pas vous dire que c'est pas quelque chose d'important. Mais je pense qu'en fait, la vraie réponse, c'est que... D'une part, bon, on a parlé tout à l'heure, Benjamin Dessus, tout à l'heure, a parlé du changement climatique. On a clairement un mur devant nous et il faut réagir très très vite. Pour résoudre ce problème, on n'a pas 36 solutions. En fait, il y en a 4, il n'y en a pas d'autres. Vous faites des économies d'énergie, vous développez les énergies renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, il n'y a pas que l'éolien et le photovoltaïque, il y en a d'autres. Vous avez le nucléaire et vous avez la capture et séquestration du CO2. Quand vous faites des scénarios sur le développement de l'humanité avec ces 4 solutions, vous trouvez que vous devez être au-delà des limites sur les 4 solutions. Si vous en enlevez une, vous n'arrivez absolument pas à trouver une solution, donc vous pouvez tirer un trait sur notre société. Donc il faut vraiment aller vers les 4 solutions. Donc,
et dans ces 4 solutions, on a entendu Daniel Heuer, c'est qu'il y a le nucléaire. Je veux faire réagir Benjamin Dessus. Si on
Moi, je voudrais faire avoir une réaction plus sociologique et plus sociétale sur ces questions-là. C'est la suivante. C'est que On assiste au monde aujourd'hui à une sorte d'ubérisation de l'énergie qui a démarré avant l'ubérisation des taxis. Autrement dit, on va vers une décentralisation des acteurs qui deviennent de plus en plus compliqués, mondialisés, etc. Or, le nucléaire, quel que soit le nucléaire que vous envisagez, dans les nouveaux nucléaires, on est devant un système massif qui suppose des investissements massifs, des investissements par pays, parce que c'est resté très national, et une longueur de temps considérable. Je pense que la situation a complètement changé et qu'il deviendra très difficile d'attaquer de telles filières qui demandent une continuité et qui aboutissent à des gros outils dont personne n'aura plus besoin.
Pour rebondir sur ce que disait Daniel Heuer, Dominique Leglu, aujourd'hui le nucléaire a quand même effectivement cet avantage majeur qui est de quasiment pas rejeter de gaz à effet de serre. C'est malgré tout un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique ou pas ?
Ah, alors là, écoutez, moi j'avoue mon incompétence sur la mesure depuis la mine jusqu'au démantèlement.
C'est relativement vrai.
Est-ce qu'il faudrait faire tous les calculs pour rebondir dans l'exploitation initiale.
C'est quand même 10 fois mieux que le charbon.
Voilà, pour rebondir sur ce que disait Daniel Heuer, est-ce qu'il faut que le nucléaire fasse partie de ce mix, de ces 4 piliers qu'il décrivait pour avoir une réponse globale contre le réchauffement climatique ?
Manifestement, vu le faible pourcentage au niveau international que ça représente, ça
joue. On entendait tout à l'heure 5% de l'énergie.
5%.
En fait, c'est vrai si on oublie les accidents et les déchets. Hein, c'est tout, quoi.
Ce qui était très intéressant dans ce reportage, c'est de rappeler effectivement qu'il y a à un moment, si on veut changer une filière, cette prise de risque financière.
Les investissements massifs.
Et oui, or... Par exemple, et
Daniel Heuer a
parlé par exemple des économies d'énergie. Quand vous voyez ce qui s'est dit au Congrès mondial de l'énergie là qui se tenait à Istanbul, les gens sont un peu réticents à investir réellement là-dessus parce qu'ils trouvent que c'est un peu flou, que c'est pas très clair sur quoi il faut vraiment investir, alors que on pourrait déjà commencer par ça. Mais financièrement, ça marche pas totalement.
Voilà, ce sera pour le moment les mots de la fin sur cette question du nucléaire, puisqu'il est 16h52 déjà et que pour conclure l'émission, comme tous les mercredis, nous donnons la parole à un ou une jeune scientifique qui vient nous exposer ses travaux avec une contrainte, n'est-ce pas d'ailleurs la contrainte universelle dont nous souffrons tous. Le temps, 4 minutes peine de plus. Aujourd'hui, nous accueillons Martin Turbet, première année de thèse au laboratoire de météorologie dynamique. Martin, bienvenue dans la recherche montre en main, c'est à vous.
Bonjour, merci pour votre invitation. Alors je vais vous emmener pendant ces quelques minutes dans le monde des planètes extrasolaires, et plus particulièrement autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on a aujourd'hui découvert près de 3500 planètes extrasolaires, des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil. La plupart de ces planètes, de ces exoplanètes, sont des grosses planètes. Des planètes comme Jupiter, gazeuses, qui orbitent souvent très proche de leurs étoiles, et donc sont très chaudes par conséquent. Mais là, stupeur, le 24 août dernier, une équipe de chercheurs internationaux annonce la découverte de Proxima Centauri B. Pour vous faire un petit peu un retour sur mon expérience, en mai dernier, un collègue de Bordeaux, du nom de Franck Celsis, nous appelle et nous dit « On a une grande nouvelle, on a découvert une planète géniale. D'abord, elle serait rocheuse, très vraisemblablement. Ensuite, elle orbiterait juste à la bonne distance pour permettre de l'eau liquide à sa surface. Et enfin, et c'est le point le plus important, elle orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Et donc, à partir de ce moment, nous avons eu 3 mois. 3 mois pour digérer la découverte. 3 mois pour réfléchir, essayer de caractériser cette planète. Et enfin, 3 mois pour produire des articles scientifiques pour mettre des informations disponibles le 24 août, le jour de la découverte, à la communauté scientifique. Et donc, ces travaux ont montré 4 conclusions importantes qui sont issues de différents domaines de la physique et qui ont été faits avec une équipe en collaboration avec des gens d'Espagne et de Bordeaux et mon équipe à Paris sous la direction de François Forget. La première chose, c'est que la physique stellaire nous dit qu'une étoile comme Proxima du Centaure est une étoile très active et qui était beaucoup plus lumineuse par le passé. Conséquence de ça, c'est que l'environnement autour de cette planète, Proxima du Centaure B, a été beaucoup plus difficile que celui de notre Terre. Deuxième point, par des calculs assez complexes, on est capable de montrer que cette planète, avec une grande probabilité, est en rotation synchrone autour de son étoile, c'est-à-dire qu'elle monte toujours la même face à son étoile. Donc vous avez donc une partie de la planète qui est très chaude, extrêmement chaude, et l'autre partie qui est extrêmement froide. Troisième point, et ça a été ma contribution la plus importante dans cette étude, c'est qu'en utilisant des modèles numériques de climat qui tentent de résoudre les équations de la thermodynamique, de l'hydrodynamique et du rayonnement, on est capable de faire des modélisations à trois dimensions de cette planète pour un grand nombre de configurations. Et les résultats principaux de cette étude ont été que, vraisemblablement, la planète peut arborer une grande diversité de climats possibles, des climats qui sont très secs, sans atmosphère. Il pourrait même, un cas possible imaginable, soit même que l'atmosphère soit condensée sur les points les plus froids de la planète. Fort heureusement, nous avons aussi montré que dans un grand nombre de cas, pour un grand nombre de paramètres, la planète pourrait posséder de l'eau liquide à sa surface. Et c'est là le point le plus important de notre étude et qui est un des points forts de ma thèse, c'est que nous avons montré que d'ici 10 ans, nous allons pouvoir caractériser, via différents télescopes, laquelle de ces solutions est la bonne. C'est-à-dire que dès 2019, avec le successeur du télescope Hubble, du nom de James Webb Space Telescope, on va pouvoir répondre à la question, est-ce que cette planète a une atmosphère ou non ? Puis, dès 2025, on va être capable d'imager cette planète, c'est-à-dire littéralement d'extraire le signal de la planète, de l'analyser, de faire des spectres, et donc d'en déduire la composition d'une atmosphère si elle existe, puis, par exemple, de dire, répondre à la question, y a-t-il de l'eau liquide à la surface de cette planète ? Bref, cette découverte est pour moi et ma génération de chercheurs extrêmement réjouissante, et le fait d'avoir participé à cette découverte, c'est-à-dire avoir suivi la découverte dans sa préparation, avoir pu analyser les planètes et participer d'ici 10 ans, peut-être à la caractérisation via des télescopes extrêmement réjouissante et me laisse rêveur.
Félicitations Martin Turbet, un mot Dominique Leglu sur ces travaux et sur cette présentation.
Simplement dire que dans Science et Avenir, nous allons revenir le mois prochain sur cette Proxima Centauri B, parce que c'est effectivement extraordinaire. Et le problème avec les exoplanètes, c'est qu'à répétition, on a un peu dit celle-là est rocheuse, celle-là est comme la Terre. Alors il faut quand même continuer à soutenir l'intérêt de l'auditeur ou du lecteur, mais là c'est pour de vrai.
Et des jeunes chercheurs, pareil. Mille merci à tous les invités, à vous quatre. Merci à Dominique Leglu, à la une de Science et Avenir ce mois-ci.
L'antimatière,
les secrets de l'antimatière, un dossier passionnant à lire dans Science et Avenir. Merci à Benjamin Dessus. Félicitations à Martin Turbet, bon courage pour vos recherches. Merci. Et merci beaucoup à Daniel ER en duplex depuis Grenoble. Daniel ER, vous avez publié, et je vous conseille ce livre, Nucléaire, quel scénario pour le futur, aux éditions La Ville Brûle. Merci aussi également, mille merci à nos confrères de France Bleu Isère qui ont rendu possible ce duplex. Et puis j'invite aussi tous nos auditeurs à vous rendre ce samedi à 14h30 au théâtre de l'Odéon pour entendre quelqu'un qu'on connaît bien à France Culture, l'ami Étienne Klein qui animera le premier épisode d'un cycle de rencontres. Samedi, ce sera autour du thème Einstein est-il responsable de la bombe atomique avec les physiciens Jacques Trenner et Bernard Fernandez. Vous pouvez réserver sur franceculture.fr. Pas besoin de réserver demain. En revanche, venez donc voir nos trombines puisque nous serons en direct et en public de la Cité des Sciences à Paris pour une émission spéciale Fête de la Science où nous interrogerons entre autres les façons de rapprocher la science des citoyens. Dans un instant, LSD est éternel comme les diamants dont nous parle toute cette semaine la série documentaire de Perrine Kervran. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique bien entendu. On se retrouve demain à 16h à la Cité des Sciences. Soyez au rendez-vous jusqu'à preuve du contraire.